VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. En RCA, les Centrafricains votent depuis ce matin aux présidentielles et législatives. Une étape importante censée les sortir de 3 ans de violences intercommunautaires qui ont entraîné leur pays dans une crise sans précédent. Il y a eu des difficultés au début du vote. Plus de détails avec notre envoyé spécial à Bangui, Tatiana Mosso, au micro de Jean-Roger Bion.
Vous l'avez dit, avec plusieurs difficultés, notamment au PK5, à l'école Koudoukou. Souvenez-vous, cette école avait été le théâtre d'échanges de tirs pendant le référendum. Eh bien, ce matin, et c'était des bureaux qui avaient été annulés, par exemple les bureaux 9 et 10, ou encore il y avait des problèmes avec la lettre M. Tous ceux qui étaient sur la liste d'électeurs et qui avaient leur nom de famille commençant par M n'ont pas pu se retrouver pour pouvoir voter. Autre problème, il manquait des listes d'électeurs et certains ont même été renvoyés pour aller voter dans le 8e arrondissement. Entendez par là qu'on invitait des musulmans à aller voter dans des quartiers qui sont encore à grande majorité sous le contrôle des anti-Balaka. Donc ça a créé des tensions à tel point que le général de la force Balakeïta, le général de la MINUSCA, a dû intervenir.
Alors, difficulté donc à Bangui. Que sait-on de la situation dans le reste du pays, Tatiana ?
Alors, dans le reste du pays, les choses semblent bien se passer, notamment dans l'Est. On a encore très peu de précisions exactement, mais dans l'ensemble, dans l'Est, ça se passe bien. Dans le Nord, à Ndélé, notamment, les opérations ont pu commencer, mais évidemment avec beaucoup de retard. Un retard qui est lié principalement à l'acheminement du matériel. Dans le sud-est du pays, les retours de ce matin étaient encore positifs. Bien sûr, on pourra faire le point à la mi-journée pour savoir exactement quelles ont été les difficultés confrontées en province.
Est-ce qu'on peut faire un bilan de ce qui s'est déroulé jusqu'à présent, maintenant ?
Alors écoutez, les quelques délégations d'observateurs que nous avons pu rencontrer en sillonnant la capitale, maintenant je me trouve dans le 8e arrondissement, après avoir été jusqu'à PK12, eh bien certains observateurs notent quand même ces grandes difficultés pour le moment à mettre en place les bureaux de vote, l'acheminement des bulletins, du matériel électoral qui a été quand même assez lent. Par exemple, dans le 8e arrondissement, ici à Don Bosco, on a commencé à voter uniquement il y a une demi-heure, c'est vous dire au moins 3 heures, 4 heures de retard parfois dans certains bureaux.
Notre envoyé spécial à Bangui, Tatiana Mosso. L'autorité nationale des élections, l'ANE, dit avoir pris en compte ces problèmes et tenté de les résoudre. Son président Julius Ngwadebaba en a appelé à la sérénité des électeurs et des candidats. Les électeurs alignés dans de longues files d'attente ont patienté dans des conditions difficiles pour accomplir leur devoir électoral. Tatiana Mosso a tendu son micro à l'un d'entre eux.
Oui, c'est un droit aux citoyens d'avoir droit au vote. Raison pour laquelle on est venu nombreux pour voter massivement pour voir qui pourrait être le chef de notre pays.
Qu'est-ce que vous attendez de ces élections ?
Ce que nous préoccupe maintenant, c'est la sécurité et puis la paix. Lorsqu'il y a sécurité, il y a la paix et puis le pays va dans son sens normal.
Quel que soit le résultat de ces urnes, est-ce que vous avez des attentes particulières ?
Oui, notre attente, c'est de voir qui est le meilleur parmi les 30 candidats qui maintenant sont en concurrence entre eux.
Est-ce que vous pensez que le scrutin sera... est-ce que vous pensez que le scrutin sera crédible ?
Oui, bon, c'est peu crédible parce qu'il y a tant de gens qui sont déjà en mesure de voter et il y a d'autres dans d'autres centres qui n'est pas encore en mesure d'être vraiment en rail, mais le Seigneur est là pour nous rassurer de tout ce que nous devons faire.
Un électeur centrafricain à Bangui. La mission de l'ONU et ses casques bleus sont très impliqués dans les élections d'aujourd'hui. Le général Balakeïta, commandant de la force onusienne, a dû mettre ce matin la main à la pâte au PK5 de Bangui pour débloquer la situation et permettre au vote de commencer. On écoute le général Balakeïta au micro de Tatiana Mosso.
Pour le moment, ça va, bon, à part quelques petits problèmes administratifs là, qu'on est en train de régler rapidement, mais sinon, dans l'ensemble, je pense que l'ambiance est bon enfant. Bon, et puis on espère que tout va se passer bon, enfin, correctement. Hein, ça ne va pas être comme la fois passée. Nous, on a appris, hein, la population a appris, les saboteurs aussi ont appris. Donc nous tous, on a appris, et puis aujourd'hui, tout va se passer bien, Inch'Allah. On espère bien. Bon, mais il y a toujours quelques petits problèmes administratifs qu'il faut régler très rapidement. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis passé, pour les aider justement à faire avec le commissaire, pour faire les ajustements qu'il faut, qui est nécessaire.
Le général Bala Keïta, commandant de la force onusienne en Centrafrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
En RDC, l'Église catholique est inquiète d'une possible impasse autour du processus électoral. Elle a entamé hier des consultations pour faciliter le dialogue entre acteurs politiques. Le point avec Eddy Sango.
Une délégation des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a rencontré Aubin Minako, les présidents de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la coalition des partis qui soutiennent les présidents Joseph Kabila. Ils ont par la suite discuté avec des représentants de l'opposition. Les évêques insistent que toute discussion pour éviter les blocages du processus électoral s'efface dans la perspective du respect de la Constitution, a déclaré l'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la CENCO. Les mandats du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 s'achèvent fin décembre 2016 et la Constitution ne l'autorise pas à embriguer un autre. M. Kabila a convoqué un dialogue auquel l'opposition refuse de participer, les soupçonnant de vouloir se maintenir au pouvoir.
On passe maintenant à l'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore a prêté serment hier comme 9e président du pays, mettant ainsi fin au régime de transition qui a suivi la chute en octobre 2014 de l'ex-président Blaise Compaoré. Le nouveau chef de l'État a invité tous les Burkinabés à un véritable changement de mentalité et de comportement pour réformer les institutions et moderniser l'administration pour plus de justice sociale, de démocratie et de liberté. Les chefs d'État de Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Bénin, du Gabon, du Ghana et de la Guinée-Conakry ont assisté à la cérémonie de prestation de serment et d'investiture au Palais des Sports de Ouaga 2000. Et puis à Madagascar, des élections sénatoriales ont eu lieu hier dans le calme afin de restaurer enfin la Chambre haute du Parlement qui avait été dissoute en 2009 après le coup d'État. Les 12 664 grands électeurs, maires et conseillers municipaux se sont rendus aux urnes pour élire 42 sénateurs. 21 autres sénateurs seront désignés directement par le chef de l'État conformément à la Constitution. L'actualité hors d'Afrique maintenant, après la reconquête de Ramadi en Irak, les autorités irakiennes y ont déployé des centaines de combattants sunnites, une stratégie qui devrait leur permettre de garder et gouverner cette ville où les musulmans sunnites sont majoritaires. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
Ce n'est que le début d'une opération qui s'annonce plutôt longue et difficile après la reprise de cette ville stratégique située à l'ouest de Bagdad. Le groupe État islamique a laissé derrière lui des centaines d'engins explosifs qu'il va falloir désamorcer. Et il faudra aussi convaincre la population, sévèrement réduite par la guerre, de ne pas céder à la tentation djihadiste. Le premier souci du gouvernement, c'est donc un retour éventuel de Daesh, qui occupait la capitale de la province d'Al-Anbar depuis mai dernier, avant d'en être chassé par les forces irakiennes et leurs alliés, avec l'appui aérien des États-Unis. C'est dans cette perspective que 500 membres de tribus sunnites sont arrivés dans le nord de Ramadi pour contrôler les zones libérées, a indiqué le général Ismail Mahalawi, qui dirige les opérations dans la province. Ces combattants, indique l'AFP, font partie de la Mobilisation populaire, une organisation paramilitaire placée sous le commandement du Premier ministre Haider al-Abadi. M. Abadi a visité Ramadi hier pour féliciter ses troupes, mais il est conscient du défi. Il faut combattre le confessionnalisme violent, la mauvaise gouvernance et la corruption qui ont permis l'implantation du groupe État islamique, a-t-il fait remarquer.
En Syrie, l'Alliance des forces démocratiques de la Syrie, composée d'une milice kurde et de groupes arabes syriens, a repris plus d'une vingtaine de villages et le barrage hydroélectrique de Tishrin au groupe État islamique. Selon un responsable du Pentagone, ce barrage sur l'Euphrate, situé à 90 km à l'est d'Alep, était une installation clé pour le groupe terroriste. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.